Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du Forum du studio Kalangou. Au micro, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garkwa Maradi. Le forum est diffusé sur l'ensemble des 8 régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios et 6 télévisions partenaires, dont 5 basées à Niamey et 1 à Zander. À Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraounia sur les 102.1 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Gestion et prévention des inondations à Maradi, comment réussir ?» Maradi est l'une des régions qui a été impactée par les inondations suite aux fortes précipitations de 2020. À Maradi-Ville, le quartier le plus endommagé est Maradawa, où plusieurs maisons se sont effondrées et des jardins envahis. Cette catastrophe est occasionnée par la crue du Gourbi, ce cours d'eau semi-permanent qui prend sa source au Nigeria en envahissant les maisons. Les dégâts matériels et humains causés par les inondations constituent une préoccupation majeure pour la région de Maradi qui détient le record des sinistrés au Niger avec 14 481 ménages et 153 035 personnes selon un rapport publié le 2 octobre 2020 par la coordination des affaires humanitaires au Tchad. Avec cette nouvelle saison hivernale, les prévisions météorologiques laissent présager des fortes précipitations dans le temps et dans l'espace. Quels sont les moyens de gestion des inondations à Maradi? Quelles sont les principales mesures de prévention des inondations à Maradi pour cette année? Comment réussir le pari de mettre les populations à l'abri des inondations? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce forum avec nos invités. Abbas Harouna, le coordinateur régional de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Elhaj Abdouchawoy, président régional de la Croix-Rouge. Alassane Maman Bachir, chef service technique de la ville de Maradi, et enfin Abdoul Enneto, coordinateur de Kodaïe Maradi, acteur de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation et soyez les bienvenus. Nous allons débuter ce forum avec vous, monsieur Abbas Harouna. Et le bilan qu'il y a lieu de dresser des inondations de l'année passée dans la région de Maradi et particulièrement dans la ville de Maradi, monsieur le coordinateur.
Merci beaucoup. Vraiment, nous saluons cette initiative. À chaque fois, pendant même la gestion des inondations, vraiment vous étiez avec nous. Ce qui est une bonne chose parce que pour gérer les inondations, vraiment, il faut communiquer. Donc, le bilan que nous pouvons donner par rapport à la gestion des inondations 2020, et la région de Maradi, c'est 14 481 ménages qui ont été touchés pour une population de 153 035. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes, même de pertes en vies humaines. On a 22 pertes en vies humaines et 72 personnes blessées. Et en termes de bétail, on a perdu 863 têtes de bétail. En termes d'hectares de culture, jardins, champs, tout compris, c'est 1961 hectares qui ont été endommagés. Il y a 29 classes qui ont été détruites. Il y a 2 cases de santé. Et en termes d'habitation, il y a 16 980 habitations qui ont été dévastées suite aux inondations 2020 sur toute l'étendue de la région de Maradi. Et voilà, en termes de dégâts, le petit bilan que nous pouvons dresser suite aux inondations 2020.
Monsieur le coordinateur, nous constatons effectivement que la région de Maradi, comme nous l'avons dit, constitue en tout cas la région la plus touchée. Qu'est-ce qui explique cela?
La situation des inondations, vous savez, même pas pour la région de Maradi, dans tous les pays, dans tout le monde entier, maintenant c'est vraiment lié au changement climatique. Donc, notre pays est frappé, notre pays est touché. Et notre région, elle peut être la région, en termes de ménage, la plus touchée, selon les chiffres que nous avons des inondations 2020. Donc, les petites explications que nous tentons de donner en dehors de ces changements climatiques, selon les experts, selon les explications qu'ils nous ont données, la région de Maradi a une position géographique, en tout cas, qui est favorable à l'inondation. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez par exemple les régions de Tillabéri, Dosso, Niamey, c'est des régions qui, en termes d'écoulement d'eau, ils sont sur une montée selon les explications, excusez-moi, je ne suis pas
expert.
Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est l'eau de toute cette zone traversant une partie du Nigeria et une partie du Bénin qui se verse dans la région de Maradi, la région de Diffa et la région et une partie de la région de Zender. C'est ce qui explique que notre région, en tout cas, a été gravement touchée par les inondations 2020. Parce que je l'ai toujours dit, avant que le fleuve ne déborde à Niamey, c'était le Goulbi de Maradi qui a débordé le premier. Et ça, c'est parce que ça peut expliquer ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport à notre position géographique. C'est vrai, il y a eu de fortes pluies, mais ça a aussi aggravé. Quand vous prenez là où traverse le Goulbi, c'est là où on trouve les localités les plus touchées. Par exemple, quand vous prenez la zone de Guédaroumji, il y a 7441 ménages qui ont été touchés. Madarumfa, 2178. La ville de Maradi, 7738. Agué, 1289 ménages. Gazawa, 479. Tessawa, 6238 ménages. Mei, 1667. Dakoro, 1339, Bermo 934. Voilà, c'est ce qui fait le cumul de ce nombre que je vous ai donné, de ces 14 481 ménages qui ont été touchés suite aux inondations 2020.
Monsieur le coordinateur, merci pour toutes ces précisions. Nous allons tourner vers vous, Monsieur Alassane Maman Bachir. Vous êtes donc chef service technique de la ville de Maradi. À entendre ce bilan, votre entité reste en tout cas une entité touchée cette inondation, je veux dire, la ville de Maradi. Qu'est-ce qui explique cela?
Merci d'ouvrir un tel plateau pour un tel débat très important et très enrichissant pour les auditeurs de la ville de Maradi. L'année passée, il y a l'inondation, elle a fait toute une catastrophe au niveau de Maradi. Le quartier le plus touché, nous avons le quartier Maradawa. Nous avons plus de 200 maisons inondées, effondrées et envahies par les eaux de pluie. Surtout les maisons qui sont au niveau de la côte de Goulbi. Le deuxième quartier qui était envahi, c'est le quartier Ndaka. Nous avons le quartier Ndaka, le quartier Limanchi, le quartier Hassaou. Il y a le nouveau carré. Nous avons Soura Alade, Soura Bildi, Baglam. Tous ces quartiers-là, il y a eu une quantité énorme de maisons tombées. On a compté même dans les 511 maisons tombées à Maradi. Après même notre recensement avec la protection civile, il y a toujours des gens qui viennent encore pour nous dire qu'il y a toujours des maisons qu'on n'a pas pu enregistrer, qui sont à l'intérieur de la ville. Et c'était un travail costaud. La protection civile nous a aidés. On a fait le travail ensemble. On a fait le relevé. On a eu le nombre de ménages, plus de 900 ménages touchés. Le nombre de sinistrés était énorme. Tous les champs, les jardins qui sont au niveau de la vallée de Goulbi ont été inondés. 80% des champs, on n'a pas pu les récupérer l'année-là.
Merci, Monsieur Alassane Maman Bachir. Nous allons tourner vers vous, monsieur El Hadji Abdou Chaouaï. Vous êtes, comme je l'ai annoncé, le président de la Croix-Rouge de Maradi. Quel commentaire ce bilan évoqué vous suscite, monsieur le président?
Donc, au nom du comité régional de la Croix-Rouge, je suis le président. Je vais pouvoir évidemment donc dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de me demander. En effet, il y a eu donc cette grande catastrophe l'an dernier, en 2020, qui a donc vraiment pris toute une partie de notre ville de Maradi. Comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Bachir, vraiment la bande sud-ouest de la ville de Maradi a été inondée et vraiment a eu beaucoup de catastrophes dans ce genre-là. Ce que je voudrais peut-être dire par là, et il faudrait peut-être rappeler aux gens que nous, en tant que Croix-Rouge, nous sommes là donc pour subvenir aux vulnérables et aux sinistrés. Alors, nous avions tendu donc notre main, comme d'habitude, auprès donc de qui de droit, c'est-à-dire depuis le CICR jusqu'à la fédération et même donc le bureau exécutif, c'est-à-dire donc la Croix-Rouge elle-même, la société nationale, quoi, je vais dire. Alors on a eu beaucoup d'appui et ces appuis-là, pour le conduire, il a fallu donc que nous fassions beaucoup, beaucoup de choses, c'est-à-dire faire un programme qui va nous permettre donc de travailler dans ce sens-là. Nous avions dans un premier temps identifié les vulnérables, les sinistrés. Ensuite, par rapport à cette liste-là, à ce travail-là, c'est ça qui nous permettrait donc de demander aux bailleurs de fonds ce qu'il faut faire à ces sinistrés et qui ont subi donc cette catastrophe naturelle.
Monsieur le Président, merci beaucoup. Abdou Daneto, je vais tourner vers vous. Vous êtes acteur de la société civile. Vous avez suivi avec nous les différents commentaires, le bilan de ces inondations. Qu'en dites-vous de tout ce que vous avez entendu tout à l'heure?
Vous savez, les inondations de l'année passée, 2020, c'est vraiment prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que d'abord les autorités ont laissé les gens habiter dans des bas-fonds où depuis longtemps ils savent que c'est un passage d'eau. Quand on prend les quartiers qui ont été cités, les maisons qui étaient effondrées, vraiment, ce sont des maisons qui sont installées sur le lit de passage d'eau. Tout le monde le savait à Maradi. Et à chaque fois, nous, on a sonné l'alerte pour prévenir les autorités de la ville pour leur dire, attention, ces gens-là, ils sont partis vivre là où il ne faudrait pas. Si on se rappelle bien, il y a quelques années, la Nigelec, au moment où elle était avec la Seine, elle a même fermé des puits parce qu'ils étaient inondés. Et c'est dans ces mêmes endroits-là que vous allez trouver des gens qui ont installé leur habitation. Donc on peut dire que c'est prévisible. Tout à l'heure, j'ai entendu le coordinateur parler des changements climatiques. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Changement climatique par rapport à quoi? D'accord, on sait que changement climatique, on peut le comprendre par plusieurs manières. Ici, peut-être, on peut me dire que il y a eu une abondance de pluie ou bien il y a eu plusieurs courants d'eau venus d'ailleurs qui sont arrivés à Maradi. Peut-être on peut comprendre le changement climatique par rapport à ça. Mais pour tous ceux qui connaissent Maradi, ils savent que ça, c'est une habitude de la ville même de Maradi. Et j'aimerais qu'on parle techniquement. La ville de Maradi est mal assainie. Quand la pluie tombe, il n'y a pas un seul passage qui vous relie du Grand Goudron à Al-Nansoho, il n'y a pas un seul passage qui n'est pas inondé. Dans quelques jours, je dis bien dans quelques jours, quand la pluie va commencer, quand elle va s'installer convenablement, il y a des passages qui sont même interdits de passer pendant toute la saison pluvieuse jusqu'à ce que la pluie passe et que quelques mois après, pour pouvoir emprunter ces ruelles-là. Et c'est la même chose à Zaria. Pourquoi cela? Parce que la ville est mal assainie. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas un passage d'eau. Donc c'est normal à ce que les maisons soient inondées, c'est normal à ce que les maisons tombent. Puisque au lieu que l'eau passe, l'eau revient dans des habitations. Et les habitations, tout le monde sait comment nous faisons nos maisons, c'est en banco. Généralement, toutes les maisons qui sont tombées, ce sont des maisons en banco. Donc, l'année dernière, 2020, il y a eu des maisons qui sont tombées. Il y a des ménages qui sont restés sans habitation. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2021? Nous en parlerons. Ça va être la même chose que l'an dernier. Peut-être pire même. Puisqu'il n'y a aucune disposition, il n'y a rien qui a été pris pour contrer à ce qui nous est arrivé l'an dernier. Puisqu'il y avait même eu des projets qui ont promis de nous faire des caniveaux à Maradi, rien n'a été fait, rien, on n'a rien vu depuis 100 ans. Et avec Maradi Kolia de 2015, il y a eu des promesses sur les 100% des travaux qui doivent être effectués pour Maradi Kolia, on a eu à peine 35%. Les 65%, peut-être, c'est dans ça là qu'on devrait voir l'assainissement de la ville, parce qu'il y a des routes goudronnées qui sont prévues, il y a des rues pavées, mais on ne peut pas faire une route sans passage d'eau. On ne peut pas faire des pavés sans prévoir l'écoulement des eaux. Donc, ce sont des problèmes qui sont là entassés, auxquels la ville a vraiment...
N'apporte pas de solution, vous
voulez dire. N'apporte pas de solution et que c'est un gros problème pour elle. Maintenant, comment solutionner ?
Nous allons parler de la solution. Monsieur le Président, vous avez écouté Abdou Daneto. La ville ne prévoit rien. Qu'est-ce qui explique que c'est toujours les mêmes quartiers qui sont inondés ?
Je viens d'écouter Monsieur Daneto et de ce qu'il est en train de dire pour l'inondation et que l'effort de la ville, il veut voir en réalité l'effort de la ville pour pallier au problème de l'inondation. Surtout, il dit qu'il y a le manque d'assainissement. C'est vrai, le réseau des caniveaux de la ville de Maradi, il est ancien. Et puis, actuellement, je suis sur le dossier. J'ai le schéma global du tracé des caniveaux de la ville de Maradi. Actuellement, je suis là-dessus. Et nous avons eu des cabinets puissants qui veulent nous aider dans cette lancée.
Vous avez parlé de Maradawa. Pourquoi c'est Maradawa toujours qui est inondé, monsieur le...
Oui, excusez-moi, je veux finir. Technique. Oui, je veux finir. Nous sommes maintenant en train de travailler sur l'étude. Parce qu'on a eu même l'accord de quelqu'un qui est avec nous, mais qui est de l'autre côté, pour pouvoir nous aider de ce qu'il faut pour la ville. C'est-à-dire, c'est des trucs, on a fait ça, on a travaillé, il nous a dit d'amener toutes les études. Il va nous aider dans cette lancée pour que Maradi, ou bien une partie de Maradi, soit traitée par le réseau des caniveaux. Maintenant, actuellement, je suis avec des cabinets puissants, en l'occurrence le cabinet technique consul. Et M. Mathy du technique consul, il était là pour aider Maradi à avoir la solution pour le réseau d'assainissement de la ville. C'est un projet très lourd, un projet qui a besoin tellement d'argent, parce que même 20 milliards, voire même 30 milliards, ne peut pas résoudre le problème de l'assainissement de la ville de Maradi. C'est un travail costaud qui dépasse la taille de la ville. Nous avions besoin des bailleurs des fonds, des organismes puissants, la Banque mondiale, c'est-à-dire pour nous aider à assainir la ville. Si vous voyez une ville dont l'assainissement est beau et qu'elle a un soutien puissant, tout dépend de ses hommes. Maradi, elle a des hommes qu'il faut pour lutter, pour sauver la ville de l'assainissement qu'il faut, du problème.
Vous voulez dire que Maradi est délaissé?
C'est pas que Maradi est délaissé, mais c'est-à-dire c'est une affaire des hommes. Mais je vous le jure, hein, l'équipe qui est en place, elle est prête à tout.
D'accord. Monsieur.
Parce que actuellement, moi, c'est uniquement là-dessus que je suis en train de travailler. Pour résoudre le problème de l'assainissement de la ville. Et moi, j'en suis sûr, nous allons avoir de très bons résultats.
Daneto, tout à l'heure, a dit que si aujourd'hui ce problème d'inondation persiste à Maradawa, c'est parce qu'on a laissé les gens construire des maisons dans des bas-fonds. Qu'est-ce que la mairie est en train de faire justement? Parce que c'est une des raisons, en tout cas selon les études, qui fait que ce quartier est confronté chaque année à cette question d'inondation.
Ça, on est en train de lutter là-dessus. Et depuis l'année passée, moi, maire sortant, nous, on a empêché ça. Et c'est fini ce problème parce qu'on va les reloger quelque part. Il y a un lotissement qui est en cours. Inch'Allah, on a prévu l'endroit possible pour les recaser.
Justement, je disais, il est important de préciser que vous êtes l'ancien, que vous êtes l'ancien délégué spécial de l'arrondissement 3 de Maradi. Et évidemment, Maradawa fait partie de l'arrondissement 3 de Maradi.
Merci beaucoup. Mais nous sommes là-dessus, on est en train de solutionner ça. Et le problème sera résolu, Inch'Allah. On va recaser les gens, on a recensé les gens qui ont les maisons effondrées, inondées. Et on a dégagé les espaces. Maintenant, on va les reloger sur le nouveau site.
Merci, M. Alassane Maman Bachir. Nous allons toujours continuer notre débat. Cette fois-ci, je vais revenir vers vous, monsieur le coordinateur. Comment se fait la gestion des inondations en temps normal?
Les prévisions pour cette année, ils ne sont pas du tout bonnes. Et certaines prévisions nous disent que ce serait plus grave que l'année passée, qu'Allah nous préserve. L'inondation de Maradi, ou bien l'inondation même au Niger, ce n'est pas seulement à Maradi. Il y a plusieurs paramètres qui font que qui expliquent ce phénomène. Au Niger, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui interdit les constructions sur les zones potentiellement inondables. C'est son application qui fait défaut. Nous voulons à ce que ça soit appliqué, surtout par les municipalités, par les villes. Ça, c'est aux villes de le faire, monsieur le technicien, excusez-moi de vous pointer, mais comme c'est ça, il faut que, en tout cas, les mairies prennent en charge cet aspect, qu'ils commencent à appliquer cette loi. Tant que on va continuer à accepter ou bien à permettre aux gens de construire sur les zones potentiellement inondables ou bien de permettre aux collectivités de faire le lotissement sans prendre en compte cet aspect assainissement et l'aspect des zones potentiellement inondables, en tout cas, l'inondation ne finira pas dans les zones. Dans les zones potentiellement inondables ou bien dans les grandes villes du Niger en général. Donc, pour vous dire, pour revenir à votre question sur la gestion des inondations, je ne sais pas, parce que la gestion des inondations, vraiment, c'est beaucoup de choses. Il y a d'abord la prévention, avant, pendant et après. Avant l'inondation, en termes de prévention, ce que nous pouvons faire en contribution avec tous les autres services techniques et tous les autres partenaires. Par exemple, quand vous prenez maintenant le service de la météorologie, je parle de prévision saisonnière tout à l'heure, le service de l'hydrologie, c'est eux qui nous passent des prévisions. Et à travers eux, maintenant, le ministère de l'Action humanitaire de la gestion des catastrophes, il sort chaque fin du mois, comme vous voyez le bulletin météorologique, mais il y a le bulletin de prévention que le ministère de l'Action humanitaire fait sortir chaque semaine pour dire, voilà, dans telle zone, voilà ce qui est prévu. Et c'est possible que les précipitations, là, vu que vos habitations sont un peu fragiles, ne peuvent pas supporter tout ça, là. On essaye de le décortiquer dans le bulletin du ministère de l'Action humanitaire. Et plusieurs ateliers ont été organisés au Niger à travers un partenaire qui nous a aidés, surtout avec vous, les hommes du média, pour passer des informations, pour faire ce genre de débat, pour expliquer à la population, en tout cas, ce qui peut provoquer ou bien ce qui peut amener l'inondation. Donc, vraiment, en termes de prévention, on fait beaucoup de choses. Donc, le temps ne peut pas nous permettre de les citer.
Et en termes de gestion?
Maintenant, en termes de gestion, pendant l'inondation même, on est obligé de communiquer d'abord. Parce que pendant l'inondation, on doit communiquer, on doit dire que voilà, il y a une catastrophe qui est en train de venir, qui est inondation qui est en train de venir et elle est imminente. Maintenant, que doit-on faire? Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de prévenir, c'est d'aller relocaliser, parce que je prends entre parenthèses, au début de cette saison, nous avons eu à visiter un certain nombre de quartiers dans la ville de Maradi, dont il y a des ravins qui est en train de menacer ou bien qui a fait effondrer même certaines maisons, et dont déjà il y a des populations qui sont dehors. Maintenant, nous avons lancé un cri auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent faire quelque chose et que nous aussi, nous avons transmis notre rapport de visite de ce ravin-là et nous avons la liste, comme l'avait dit le directeur, nous avons la liste de ménages qui sont touchés ou bien le ménage qui sont menacés. Et nous demandons tout simplement les terrains pour pouvoir les relocaliser parce que nous, on n'a pas la terre, c'est la mairie qui a la terre. Et d'une manière provisoire, c'est tout ce qu'on pouvait faire, c'est de les relocaliser, le chercher un abri. S'ils n'ont pas de quoi à manger, si l'inondation a fait qu'ils ont perdu leur habitation, ce qu'ils doivent manger, nous venons en tout cas avec quelque chose qui va leur permettre aussi de sauver leur vie. Donc c'est tout ce qu'on pouvait faire pendant les inondations. En tout cas, on intervient pour sauver les vies. On intervient en termes d'abri, on intervient en termes de biens non alimentaires, on intervient en termes de l'alimentaire aussi. Parce que l'année passée, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Comme l'avait dit le président de la Croix-Rouge a fait beaucoup en termes d'abri. En termes, il y a quelque part, il y a des partenaires qui ont fait le cash. Il y a ceux qui, par exemple, au lieu de donner un abri, ou bien au lieu de donner un kit NFI qui sera composé des bouilloires, qui sera composé des seaux d'eau, qui seront quelque chose qui ne sera pas adapté aux besoins de cette population sinistrée. Il y a ceux qui évaluent ça en termes d'argent et ils font le cash. En tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui l'ont fait, mais l'État même n'a pas baissé la main parce que l'État, en termes alimentaire aussi, l'État a fait beaucoup de choses.
Merci, monsieur le coordinateur. Vous avez, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez géré l'arrondissement 3 en 2020. Comment vous avez géré les inondations?
Alhamdoulilah, nous avons les inondations, c'est-à-dire on a eu trop de problèmes pour les gérer. Mais alhamdoulilah, le gouvernement a fait beaucoup de son effort pour qu'on puisse sortir de ce problème. Nous avons eu à recaser les sinistrés au niveau des écoles. Et puis, il y a l'action humanitaire avec l'appui du gouvernement. L'action humanitaire, on a donné des vivres, des kits pour partager aux sinistrés. Et c'était bien. Et cela a tenu beaucoup ce problème. On leur a promis le terrain là qu'on est en train de. On est déjà dans le dossier. Bientôt, Inch'Allah, où ça va aller, et on va les recaser dans le nouveau site qu'on est en train de. On a déjà lancé les travaux de bornage pour le nouveau site où on doit les recaser. Sinon, la ville de Maradi, cette fois-ci, elle a pris des décisions puissantes pour gérer le problème de l'inondation.
D'accord. Nous allons, avant de parler de prévention, peut-être que nous allons tourner vers Alhaji Abdouchaoui, qui est le président de la Croix-Rouge. En termes de mesures prises pour la gestion des inondations à Maradi, qu'est-ce que la Croix-Rouge a eu à faire?
Pour ce qui est donc du comité régional de la Croix-Rouge, et même donc de la Croix-Rouge en amont, pour gérer donc cette catastrophe-là, nous, jusqu'ici, on n'a pas prévu comment est-ce que donc on va essayer de prévoir la catastrophe qui arrive. Mais ce que nous faisons, c'est que si cela pouvait arriver, nous avons notre méthode de travail. Donc, c'est d'assister rapidement ceux qui sont sinistrés, vulnérables. Et par rapport donc à cette étude-là, nous amenons un plus sur ce que nous devons faire. Comme venait de le dire le coordinateur, nous en avions déjà fait beaucoup de choses en abri, en kit alimentaire et non alimentaire, et pour bien beaucoup d'autres objets aussi qui doivent venir apporter un appui à ces sinistrés-là. Oui, mais nous ne prévoyons pas que nous étudions une prévention qui dit que bon voilà ce que nous envisageons faire quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans les catastrophes naturelles.
Monsieur le coordinateur, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face dans la gestion des inondations de 2020?
La plus grosse difficulté qu'on a, et ça c'est partout au Niger, c'est pas seulement à Maradi, c'est par rapport à la préparation de l'inondation. Par rapport à cette préparation-là, tout ce qu'on demande, c'est d'abord le prépositionnement. C'est le prépositionnement. Est-ce que, à la date où je vous parle, au magasin, nous disposons, en tout cas, d'un certain tonne de vivres?
On parle de 2020, hein?
Oui. Bah, vous parlez de 2020, n'est-ce pas?
Oui.
C'est juste
les difficultés que vous avez fait face.
À titre d'exemple que je suis en train de parler. Parce que si, en 2020, on avait des stocks, par exemple, en vivres, en viande non alimentaire, que c'est stocké au magasin de Maradi, au cas de qu'on nous dit qu'il y a une catastrophe, on recense tout simplement, on part, on prend et on distribue aux populations sinistrées. Ça fait partie des difficultés.
Donc en 2020, il a fallu attendre que les partenaires se manifestent?
Il y avait l'appui de l'État. Vous savez, avec le programme de la Renaissance Acte 2, même Acte 1, c'était prévu que chaque année, il y a un certain nombre de tonnages qui sont en tout cas stockés en termes de prépositionnement. Ça, c'est l'État, avec fonds propres de l'État, qu'on le fait et on l'amène dans les régions. Actuellement, il y a eu en tout cas deux camions qui sont en train de venir, dont d'autres sont déjà là, qui ont amené des vivres en termes de propositionnement pour faire face au cas où il y aura des inondations à Maradi.
Donc vous avez fait face à un problème de propositionnement. Monsieur le coordinateur ou bien monsieur le président de la Croix-Rouge, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face dans la gestion de l'inondation 2020?
Les difficultés qu'on a rencontrées donc en 2020, c'est au moment où nous voulons donc identifier les sinistrés. À ce moment-là, on a rencontré des difficultés par rapport donc à l'accès des maisons effondrées. Et en même temps, c'est un travail que nous avons toujours essayé de le faire avec les chefs de quartier. Et certains chefs de quartier, vraiment, si on se fiait à eux, ce travail n'allait pas être résolu. Parce que avec eux, on n'a pas la possibilité vraiment de sillonner toutes les maisons qui sont effondrées. Parce que de leur endroit, ils nous disent que bon, chez un tel il y a eu ceci, chez un tel il y a eu cela. Alors si tout bonnement on restait à ces pronostics-là, on n'allait pas faire du bien dans ce travail.
Autrement dit, l'accès aux vrais sinistrés était une difficulté pour vous.
Oui, c'est vraiment difficile. Parce que ces gens-là, il faut aller les toucher du doigt. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise que c'est un tel ou dans la maison de X que ces travaux-là ont été faits. Il faut donc aller nous-mêmes, avec donc nos volontaires, faire ces identifications-là pour recueillir les vrais résultats de ce qu'il nous faut faire quand nous avons donc réuni ces renseignements-là.
Monsieur le coordinateur, vous voulez ajouter quelque chose?
Voilà, merci. Parce que je pensais que vous allez me permettre de dire tout ça là en termes de difficultés et en termes de ce qu'on était en train de faire. Mais quand vous avez donné la parole au président, donc je me suis tu. Sinon, cette question, son inquiétude n'allait pas avoir lieu. Parce que par rapport aux chiffres, par rapport à la base
des données. Au vrai sinistré.
N'est-ce pas? Donc, vous savez, au Niger, il y a un schéma qui est là pour avoir ou pour recenser les sinistrés des inondations. Surtout avec le plan de contingence 2020. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un plan de contingence qui a pris en compte tous les paramètres prévention, gestion et post-catastrophe aussi. Donc dans ce plan de contingence-là, il y a une partie qui a schématisé comment remonter les données. Et voilà le schéma. Au niveau national, on a un comité national qui est présidé par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, avec tous les ministères concernés, et notamment avec la direction de la protection civile qui assure la vice-présidence. Au niveau régional, c'est le gouverneur qui est le président du comité régional de gestion des inondations. L'action humanitaire, nous assurons le rapportage. Au niveau départemental, c'est le préfet qui est le président du même comité, avec comme vice-président le maire de la commune concerné. Et au niveau communal, c'est le maire qui est le président. Au niveau de toutes les communes du Nigeria, il y a des messages de radio, on avait envoyé, il faut mettre en place le comité. C'est à ce comité-là d'aller sur le terrain pour recenser. Au cas où, dès qu'il y a inondation, le chef du quartier, c'est pas au partenaire, ça je le souligne, c'est pas au partenaire d'aller recenser le sinistré. Non, c'est à ce comité-là de le faire. Et avant, c'était la protection civile à elle seule qui le faisait. Mais maintenant, avec les nouvelles mesures, c'est au comité là de le faire. Et je vous avoue, c'est la plus grande difficulté qu'on avait rencontrée l'année passée. Parce que beaucoup de mairies n'ont pas eu à mettre en place ce comité. Et jusqu'à la date où je vous parle, on a fait le message radio. On a renvoyé le même message radio au moins à trois reprises l'année passée. Cette année, à la veille des inondations, j'ai repris le même message radio signé par le gouverneur et qu'on a encore renvoyé au niveau de ces communes et de ces départements. À la date où je vous parle, je n'ai que trois départements qui m'ont répondu pour dire que leur comité est installé. Alors que ce comité-là doit se réunir chaque semaine pendant la saison de pluie. Après avoir fini le recensement, on le remonte, on valide les données au niveau régional, on envoie au comité national. C'est comme ça qu'on peut avoir une base de données. Mais très malheureusement, ce comité-là n'a pas bien fonctionné. Voilà pourquoi on a eu des problèmes. Jusqu'à présent, il y a eu des sinistrés qui n'ont pas été recensés du fait que le comité n'a pas fonctionné et ils n'ont reçu aucune aide.
Quelles sont aujourd'hui les mesures de prévention envisagées pour barrer la route aux inondations, Monsieur Alassane Maman Bachir, vous qui êtes le chef service technique de la ville de Maradi?
Oui, merci beaucoup. Si vous voyez au niveau de l'autogare, on a déjà démarré des travaux. Les travaux de l'assainissement de la voie, des voies qu'on a prévues. Il y a 22 kilomètres, déjà les travaux ont commencé. Moi, avant-hier même, j'étais au niveau de la direction de l'équipement. On a en parlé.
Oui, oui. La question, c'est en quoi ces travaux peuvent aider à lutter contre les inondations?
C'est-à-dire, ça va faciliter, c'est-à-dire si c'est les eaux qui font tomber les maisons des uns et des autres, c'est-à-dire là, on a commencé l'assainissement. Donc, ce problème de l'eau, on est en train de le dégager. Oui, oui. Et puis, il y a des pistes. Même la mairie, elle a prévu 16 km de pistes cette année. Nous avons visité avec vous, monsieur le coordinateur régional de la catastrophe. On a visité 5 ravins. Dans notre PPM, c'est en cours. On va les traiter. D'ici 2020, on a 5 ravins à traiter.
Abdou Denetto a parlé de manque de les caniveaux.
Oui, les caniveaux, déjà, il y a le pacte nous a donné 2 km 100 de caniveau à faire avec la réhabilitation du marché El Rahama.
C'est pas un peu tard parce que nous sommes déjà dans la
saison
de pluie?
Non, ça peut pas être tard parce que les travaux, quel qu'en soit leur retard, si on arrive à les faire, alhamdoulilah.
C'est vraiment un tour de table que nous allons faire. Abdou Denetto, comment réussir le pari de mettre les populations de la ville de Maradi à l'abri des inondations?
Vous savez, moi, ce que je trouve, dès qu'on dit la catastrophe, c'est quoi? Quand une maison est effondrée et que les gens sont sans habitation, c'est une catastrophe. Quand ça tombe et que ça tue la personne, c'est même à prévoir. Une maison, quand elle ne s'effondre pas seule. Quand c'est habité, il y a risque de tuer des gens. Donc, il suffit de voir ses partenaires pour leur dire vraiment aider-nous à combler ces trous, réparer ça. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons 22 kilomètres de route bitumée. Au lieu de nous faire les 22 kilomètres, pourquoi ne pas faire 15 kilomètres de route bitumée? Pourquoi ne pas faire 15 kilomètres de route bitumée et prévoir 7 kilomètres de caniveau? Pourquoi pas? Pour protéger d'abord les routes, protéger les habitations, et il n'y aura plus de catastrophe. Dès que la pluie tombe, 10 minutes après, tu ne vas plus trouver des flaques d'eau. Ça, c'est encore ça. Et là où on parle de pistes de 11 km, pourquoi ne pas nous faire 8 km de pistes et 3 km de caniveau? Là, ça protège tout. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura même pas à prévoir un tonnage pour dire qu'en cas de catastrophe, en cas où les maisons s'effondrent, en cas où les gens sont sans habitation, en cas où les gens sont sans nourriture, on leur donne cette nourriture. Non, moi je trouve qu'une fois qu'on solutionne ce problème, je pense qu'il n'y aura même pas à prévoir un certain tonnage.
Merci Danetto. Monsieur le technicien, comment réussir le pari de mettre les populations à l'abri des inondations?
Pour réussir le pari, franchement, nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Nous avons besoin de l'aide de nos personnalités importantes qui peuvent parler pour qu'on puisse nous aider. Et puis, les 22 kilomètres qu'on a prévu de faire, c'est y compris l'assainissement. C'est avec les caniveaux. Parce que ce n'est pas des voies drainantes. Et Inch'Allah, on va apporter une solution pour drainer bien les eaux de la ville de Maradi. Les maisons qu'on est en train de construire sur les voies et autres, nous sommes en train de mener un combat puissant là-dessus.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Elhaji Abdou Chiaoui, vous êtes le président de Croix-Rouge Maradi. Comment réussir le pari de mettre les populations à l'abri des inondations?
Merci. Je sais que vraiment pour réussir ce pari-là, ce n'est pas facile. Mais ce qu'il y a lieu de faire, dans un premier temps, vraiment, c'est d'accepter et d'étudier le plan de contingence. Il faut l'accepter, il faut le comprendre et il faut le maintenir. Ce n'est pas pour rien que lui-même, il le sait, le plan de contingence, là, si vraiment vous le suivez de très près, bon, vous allez peut-être réduire à un pourcentage assez important de ces prévisions-là que nous sommes en train de parler. Donc, pour moi, c'est vraiment le plan de contingence qu'il faut avoir en main et l'étudier et le mettre vraiment à l'œuvre.
Est-ce que ce plan de contingence, les mairies en possèdent?
Et normalement, chaque mairie, même à son plan de contingence, elle prend en compte ces aspects. Mais ça, c'est un plan de contingence. Nous avons le plan de contingence national qui a pris en compte tous les pays et tous les problèmes auxquels on peut faire face suite aux inondations. Au niveau régional aussi, nous sommes en exercice d'élaborer un plan de contingence régional et que le partenaire soit mis à contribution.
Puis il y a un problème. Puisque la ville est décidée à travailler, vraiment qu'elle fasse un tour à la Nigellec, parce que je sais que la Nigellec, elle avait dédommagé certaines maisons qui sont sous le réseau de la Nigellec. Et les gens, au lieu de quitter pour que ces maisons-là soient détruites, sur la haute tension, au lieu de dégager, de déguerpir, ils ont vendu à d'autres. Donc il faudrait maintenant que la ville se mette avec la Nigellec pour voir ces maisons-là. Et s'il y a d'autres qui se sont implantés après, donc vraiment c'est de voir comment faire pour les dégager, puisque là c'est encore une autre catastrophe qui va arriver. Donc il faut la prévoir aussi.
Merci Abdoulaye Netto pour ces précisions. Donc en conclusion, nous dirons qu'au vu des différents commentaires que ce problème a suscité, c'est-à-dire la gestion des inondations à Maradi, il reste encore problématique malgré la prise de certaines décisions, et pour y faire face, il faut que la chaîne, tous les acteurs s'y mettent, travaillent en synergie pour, afin bien sûr de mettre les populations à l'abri. Merci Monsieur Abassarouna pour avoir répondu à notre invitation. Merci Alassane Maman Bachir pour avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye Netto, merci Elhaji Abdouchaoui, merci pour votre participation. Nous vous disons à la prochaine. Merci.